Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Mikhaïl Bulgakov. Qu'écrire durant les pires années de l'Union soviétique ? Écrire, évidemment, ce n'est pas le problème, c'est publier, c'est être joué sur scène qui semble impossible. Incompatibilité totale entre le pouvoir et le créateur. Et pourtant, l'auteur du Maître et Marguerite publiait La Garde Blanche, Les œufs fatidiques, Cœur de chien ou présentait au théâtre La Journée des Tourbines. Quitter l'URSS, mais comment ? Staline ne voulait certes pas le laisser partir. Donc, écrire, continuer à écrire et à accumuler les manuscrits. Lui, dont les œuvres naissaient, achevées, selon l'un de ses admirateurs. Un chien qui devient un citoyen soviétique. Une pièce qui, selon Staline, servait la révolution à l'encontre de la volonté de son auteur, Mikhaïl Bulgakov, première émission d'une série de deux, proposée par François Ruggieri. Première diffusion sur France Culture le 3 novembre 1973.
« Quand j'étais jeune, j'étais très timide, racontait-il. Et je crois que jusqu'à la fin de ma vie, je n'ai jamais pu me débarrasser de ce défaut. Mais je faisais semblant. Au début des années 20, je rencontrais à Moscou un écrivain originaire de Kiev, avec qui j'avais fait mes études au lycée. Nous n'étions pas vraiment amis, mais notre rencontre fut chaleureuse, comme il s'y a des gens de Kiev qui aiment avec passion leur ville natale. Il s'écria... « Oh, je me souviens de vous, Bulgakov. Vous étiez toujours un meneur. Je suis votre aîné, mais aujourd'hui encore, je crois entendre vos propos féroces. Si, si, Subotch, le professeur de latin, vous vous souvenez, avait peur de vous. Vous faisiez trembler tout le lycée. Et maintenant, ce sont les journées des tourbines. En ce temps-là, déjà, vous étiez célèbre. »
Écoutez, moi, je le vois comme un solitaire.
Alexandre Petrovitch.
Je pense que c'est un grand solitaire. Sur le plan de vie quotidienne, de la vie quotidienne, il ne pourrait pas s'intégrer, n'est-ce pas? Alors, en même temps, c'est un grand observateur. C'est un chercheur. C'est un chercheur qui a une obligation de dire la vérité envers lui-même, n'est-ce pas? C'est un homme qui est, si vous voulez, enfermé, qui est vraiment prisonnier de la vérité.
Paul Kalinine, est-ce que vous pourriez nous situer le cadre dans lequel Mikhaïl Bulgakov voit le jour ? C'est-à-dire qu'il est né en Russie en 1891, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la Russie de l'époque pré-révolutionnaire, c'est-à-dire au moment où on sent que tout un système à la fois politique, artistique, etc. s'écroule ?
Oui, les débuts de Bulgakov, enfin Bulgakov comme vous dites est né en 1891 et disons, c'est la fondation du théâtre d'art date de 1899. Grandes pièces de Tchekhov se situent au début du siècle. Il y a une période extraordinaire, une période extrêmement brillante au début du siècle, pratiquement jusqu'à la révolution dite de 1917, c'est l'âge d'or du théâtre en Russie.
Alors, nous sommes en gros maintenant 1905-1910, et que fait Bulgakov à cette époque-là?
À ce moment-là, Bulgakov, il est sur les bancs du lycée, enfin, nous avons peu de témoignages sur cette période. Il y a un témoignage qui est très, très attachant, c'est celui de Paoustovski, qui le campe, collégien impétueux, prêt à toutes les bagarres, très audacieux, redouté déjà pour son expression, sa langue acérée, et étant toujours au premier rang quand il y avait des coups à donner et à recevoir. Enfin, ça sera peut-être une préfiguration. Je pense que si Paoustovski a retenu cette image, c'est qu'elle correspond à la suite de la carrière de Bulgakov, bien sûr.
Oui. Et figurez-vous que les quelques rares portraits
Jean Frostier
de Bulgakov font penser à Fitzgerald. Et les témoignages qu'on a, en particulier celui du préfacier, n'est-ce pas, du maître et Marguerite, Ermolinski, qui l'a connu tard. Ce n'est pas un ami de jeunesse, c'est un ami des derniers jours. Il nous le décrit comme un homme snob, vivant dans un rez-de-chaussée de Moscou, mais avec beaucoup d'élégance, de chic. Vraiment un snob. Et à ce moment-là, tout d'un coup, on pense qu'à la même époque, sur la Côte d'Azur, Zelda Fitzgerald et Scott sont en train de mener leur aventure folle. Et c'est le même homme. C'est le même homme, sûr de son succès, sûr de son talent. Mais il l'aborde dans un pays, dans un milieu, dans une société totalement différente et dans des années qui sont les pires, n'est-ce pas, de celles de l'Union soviétique.
Alors, en 1917, date de la révolution russe, que se passe-t-il, Paul Kalinine ?
Alors, Bulgakov termine ses études de médecine, et quand la révolution éclate, il est médecin, il exerce en province, il exerce à Smolensk, ensuite il revient à Kiev. Je vous épargne le détail de ses allées et venues, qui n'a pas grosse importance, mais ce qui est important, c'est de voir que l'Ukraine, à ce moment-là, vraiment offre un tableau dont la Garde Blanche nous donne simplement un reflet. Parce que je crois qu'il est absolument difficile de présenter un tableau d'ensemble. Certains auteurs soviétiques l'ont fait avec des fortunes diverses. Mais je crois que la meilleure solution a été peut-être celle qu'a adoptée Bulgakov, c'est-à-dire dans un style, avec une technique un peu expressionniste, de montrer certaines scènes d'une horreur extraordinaire. Et ce pays qui est ravagé par 5 armées, cette ville, la capitale de l'Ukraine, Kiev, qui est reprise de jour en jour par des clans opposés, vraiment offre une image qui déroute certainement l'expression.
Et je crois qu'à ce moment-là, il y a une rupture dans la vie de Bulgakov, c'est que subitement, il a envie d'abandonner la médecine pour se consacrer à la littérature.
Effectivement, dans les années 1919, il renonce définitivement, c'est un moment toujours difficile à situer, il renonce à la médecine pour se lancer, parce que c'était tout de même vraiment une aventure extraordinaire, un moment où la Russie était dans une situation absolument apocalyptique, il se tourne résolument vers la littérature. Et il collabore effectivement à cette revue, à cette publication, Le Sifflet, qui regroupe un certain nombre d'écrivains qui seront après les coryphées de la littérature, de la jeune littérature soviétique. Il fait partie, au fond, de cette première équipe qui a choisi de rester en Union soviétique, qui restera en Union soviétique, qui marquera les débuts de la prose soviétique.
C'était un homme élégant, faut le dire.
C'est un homme élégant, et c'est un homme qui s'était cru destiné au succès, j'en suis sûr. Il pensait qu'il faisait partie de l'intelligentsia soviétique, et qu'il était un type chouette et doué d'un grand talent. Il ne se trompe pas là-dessus. Mais il jouait son personnage, seulement il le jouait dans un temps et dans un pays où ce n'était pas jouable. Son courage a été de continuer à écrire, d'accumuler ses manuscrits, que peut-être nous connaîtrons, de se montrer quand même un très grand écrivain.
Avant d'accumuler des écrits censurés, Bulgakov commence par écrire un recueil de nouvelles, Les œufs fatidiques.
Dans la nuit du 19 au 20 août, il se mit brusquement à geler,
C'était une chose inouïe de mémoire d'homme, on n'avait jamais vu ça. Une fois installé, le gel se maintint pendant 2 jours et 2 nuits, atteignant moins 18. Au comble de la rage, Moscou ferma portes et fenêtres. Ce n'est qu'au bout du 3e jour que la population comprit que le gel avait sauvé la capitale et les espaces illimités qu'elle contrôlait et sur lesquels s'était abattu le terrible fléau de l'an 1928. Près de Mojaïsk, la cavalerie, qui avait déjà perdu les 3/4 de ses effectifs, commençait à donner des signes d'épuisement et les escadrilles spécialisées dans les attaques au gaz ne pouvaient arrêter la progression des abominables reptiles qui, par l'ouest, le sud-ouest et le sud, convergeaient en demi-cercle vers Moscou. Le gel les extermina. Leurs troupeaux abjects ne purent résister 2 jours de suite à une température de moins 18. Après le 20 août, lorsque le gel se fut évanoui, les seules traces de son passage étaient une intense humidité dont était gorgée la nature tout entière. Une puissante moiteur qui imprégnait l'atmosphère et l'aspect cadavérique des feuilles des arbres qui avaient été saisies par la vague de froid inattendue. Il apparut alors qu'il n'y avait plus d'ennemis à combattre. Le fléau avait pris fin. Les forêts, les champs et les marécages immenses étaient encore jonchés de bigarrés, couverts parfois de dessins étranges, inconnus, jamais vus. Ceux-là même que Rock, dont on avait perdu la trace, prenait pour de la salissure. Mais ces œufs étaient absolument inoffensifs. Ils étaient morts. Les embryons qu'ils renfermaient avaient été supprimés. D'immenses étendues de terrain restèrent encore longtemps couvertes de la pourriture des innombrables cadavres de crocodiles et de serpents engendrés par le mystérieux rayon qui avait pris naissance rue Herzen, sous l'œil attentif du génial savant. Mais à présent, il n'était plus dangereux. Les fragiles créatures des marécages chauds et putrides des régions tropicales avaient péri en 2 jours, ne laissant derrière elles, sur toute la surface de 3 gouvernements, que décomposition et putréfaction dans une effroyable odeur méphitique. Longtemps qu'il y eut des épidémies, longtemps toutes sortes de maux sévirent massivement parmi la population. La cause en était la présence de toutes ces charognes de reptiles et des cadavres humains. Longtemps encore, l'armée fut en campagne, mais à présent, elle n'était plus dotée de gaz de combat. Elle était équipée de matériel du génie, de citernes de kérosène et de tuyaux, et elle nettoyait le terrain. Elle mena bien cette opération de nettoyage, et tout fut terminé pour le printemps 1929. Et, au printemps 1929, Moscou se remit à danser, à s'illuminer, à tourbillonner dans un scintillement coruscant. Mais ensuite, le nom du professeur Vladimir Ipatievitch Persikov s'enveloppa de brouillard et s'éteignit, comme s'était éteint le fameux rayon rouge qu'il avait découvert par une nuit d'avril.
Est-ce que dans les œufs fatidiques, on voit déjà le caractère d'écrivain de Bulgakov? Est-ce que ses principaux traits ressortent déjà?
Absolument.
Alors qu'il est tout jeune, il a quel âge?
Oui.
Il a 26 ans, 27 ans.
Ce qui est frappant, c'est que Bulgakov, et ce sera une caractéristique d'ailleurs de son écriture, ses œuvres naissent achevées. Je me rappelle avoir entendu dire par des personnes qui l'ont connu, par ses amis, par sa dernière épouse, que Bulgakov ne raturait guère. Son œuvre était achevée immédiatement. Il y avait un temps de réflexion, un temps de concentration extrêmement intense, mais l'œuvre naissait achevée.
En vérité, ce qui l'attirait beaucoup plus que ce travail au niveau du,
Georges Soria.
De l'éphémère, au niveau du journalisme, c'était la vie du théâtre. Très tôt, à partir de 1923-24, Bulgakov s'intéresse au théâtre, vit parmi les acteurs, et il passera parmi eux 15 années de sa vie.
Qu'est-ce que c'est que ce Golubkov ? Golubkov. Que puis-je pour vous ?
Vous ne me reconnaissez sans doute pas. Nous nous sommes rencontrés il y a un an, au cours de cette terrible nuit en Crimée, quand on a arrêté votre épouse. Elle se trouve en ce moment à Constantinople. Elle est au bord de l'abîme.
Au bord de quoi ? Excusez-moi, mais je n'ai pas la moindre épouse. Et d'un. Et deuxièmement, je ne me rappelle absolument pas la nuit dont vous parlez. Vous faites certainement erreur.
Voyons, vous êtes bien Paramon Ilitch Korzoukine. Vous étiez en Crimée, je vous reconnais.
Effectivement, j'ai passé quelque temps en Crimée, à un moment où sévissaient là-bas des généraux à moitié fous. Mais, voyez-vous, je suis parti aussitôt. Et j'ai cessé toute relation avec la Russie. Je ne suis pas disposé à en renouer d'autres. Je me suis fait naturaliser français. Je n'ai jamais été marié, et je dois vous dire que depuis 3 mois, vit sous mon toit en qualité de secrétaire particulière, une émigrée russe qui, elle aussi, a choisi la nationalité française et a pris le nom de Fréjol. Cet être exquis a si bien trouvé le chemin de mon cœur que, je vous le dis en confidence, je suis résolu à l'épouser prochainement. Vous comprendrez dans ces conditions que toute conversation concernant une épouse que j'aurai déjà m'est infiniment désagréable.
Fréjol, vous agissez comme si elle n'avait jamais existé. Mais réfléchissez donc, elle venait vous rejoindre. Vous vous rappelez où l'a arrêtée ? Rappelez-vous ce froid terrible, les fenêtres, le fanal, la lune bleue.
Bien sûr, la lune bleue, le froid. Les services du contre-espionnage ont déjà essayé de me faire chanter en utilisant cette fable d'une prétendue épouse communiste. Je vous le répète, monsieur Golubkov, cette conversation m'est infiniment désagréable.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je crois rêver.
Ah, il n'y a pas de doute, vous rêvez.
Je comprends, elle vous gêne et c'est très bien. Bon, admettons qu'elle ne soit pas votre épouse, c'est tant mieux ainsi. Voilà, je l'aime, comprenez donc que je l'aime. Je ferai tout pour la tirer des griffes de la misère, mais je vous demande de l'aider juste quelque temps. Vous êtes extrêmement riche. Tout le monde sait que vous avez placé toute votre fortune à l'étranger. Alors prêtez-moi $1,000. Dès que nos affaires seront rétablies, je vous les rendrai sans faute. Je les gagnerai à la sueur de mon front, j'en ferai le but de mon existence.
Pardonnez-moi, monsieur Golubkov, mais d'avance, j'étais sûr que cette conversation sur une épouse mythique aboutirait précisément à une demande de dollars. Combien ? 1 000. J'ai bien entendu ?
Oui, 1 000 dollars. Je vous jure que je vous les rendrai.
Ah, jeune homme ! Avant de parler de 1 000 dollars, je vais vous dire ce que c'est qu'un seul dollar. Dollar ! Esprit immense et tout puissant. Il est présent, partout. Regardez, là. Tenez, là-bas, au loin sur le toit, brille un rayon d'or. À côté très haut dans les airs, un chat noir qui fait le gros dos. C'est une chimère, il est là aussi. La chimère veille sur lui. Écoutez. Écoutez. Ce n'est ni un bruit ni un son, mais le halètement de la terre. Dans ses entrailles, des trains passent comme le vent, avec dollars comme passagers. À présent, fermez les yeux. Essayez d'imaginer les ténèbres, des vagues qui déferlent hautes comme des montagnes. La nuit, l'eau, vous êtes en plein océan. Il est déchaîné, il va vous engloutir. Mais voici qu'à travers l'océan, sifflant de toutes ses chaudières, fendant des millions de tonnes d'eau, avance un monstre. Il va, il souffle, il brille de 1 000 feux. Il gémit en labourant la mer. Mais dans ces chaudières infernales où s'agitent des mécaniciens nus, il porte son enfant, son trésor, son cœur divin. Il porte dollars. Et soudain, la terre entière s'agite et s'alarme. Voici qu'ils arrivent déjà, ils arrivent. Ils sont des milliers, puis des millions. Leurs têtes sont soudées dans des casques d'acier. Ils arrivent. Ensuite, il fuit. À présent, il se jette en hurlant, poitrine nue, contre les barbelés. Pourquoi sont-ils partis à l'assaut ?
Parce que quelque part, dans le monde, on a offensé le dieu de l'art. Mais l'univers se calme. Tout rentre dans l'ordre. Partout dans toutes les villes, les clairons sonnent victoire. Il est vengé. Ils acclament tous de l'art. Eh bien, monsieur Golubkov, je pense que vous cesserez vous-même d'insister pour que je confie à un jeune homme inconnu tout un millier de dollars.
Non, non, je n'insisterai pas. Mais je voulais vous dire en guise d'adieu, monsieur Korzoukhin, que vous êtes l'être le plus dépourvu de cœur, la créature la plus répugnante que j'ai jamais vue. Et vous aurez un jour votre récompense, elle viendra. Il ne peut pas en être autrement. Adieu!
Dans les journées des turbines et aussi dans la fuite, il y a une opposition systématique entre le... même au niveau du langage, c'est-à-dire que des gens, les turbines, parlent d'une manière plus aristocratique face aux gens de l'armée qui parlent un argot, etc. Est-ce que, pourquoi Bouliakov a-t-il essayé de faire une opposition systématique à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien au niveau du langage qu'au niveau des idées dans les turbines et dans la fuite?
Et je crois qu'il l'a fait parce que ça reflète exactement d'abord la situation du moment et ensuite ça illustre un problème particulièrement grave, c'est cette difficulté qu'il y aura à faire passer le courant entre la masse de la population et ceux qui constituaient jusqu'alors son élite.
À l'occasion d'une tournée à Saint-Pétersbourg du théâtre d'art, le poète Valéry Bryoussov publie dans Le Monde de l'art un article intitulé « Inutile vérité » qui affirme vigoureusement, en face du réalisme de la jeune compagnie, la force montante du symbolisme et peut servir d'illustration à ce que sera le théâtre de convention prôné par Meyerhold. Reproduire fidèlement la vie sur scène est impossible. La fiction fait partie de l'art. Par sa nature même, la scène est une convention. Mais il est deux catégories de conventions. L'une tient à l'incapacité de créer effectivement ce que l'on souhaite, l'autre est parfaitement consciente. La scène doit fournir au spectateur tout ce qui est nécessaire pour recréer en imagination la situation suggérée par la fable de la pièce. Point n'est besoin de supprimer la situation définie par la fable. Elle doit seulement être une convention délibérée. Elle doit être stylisée. Renoncez donc à l'inutile vérité du théâtre contemporain pour ne vous attacher qu'à la convention réfléchie et consciente.
Le réalisme semble être le langage de prédilection pour les officiels et le devient bientôt.
Georges Soria.
Bulgakov vient là-dessus avec un langage qui n'est pas le langage réaliste et il se permet, quand il emploie le langage réaliste et quand il se situe dans la filiation du réalisme, il se permet de toucher à des problèmes qui sont des problèmes extrêmement cotons. Prenons un exemple. Les jours des turbines, qui est une pièce réaliste. Eh bien, ça lui a valu beaucoup d'ennuis. Vous savez sans doute que la pièce a connu une carrière tumultueuse, qu'elle a été interdite, et qu'elle n'a été finalement réautorisée que sur l'intervention personnelle de Staline, parce que Staline a vu à cette époque, dans cette pièce, si vous voulez, la puissance d'attraction extraordinaire que la société soviétique et le parti bolchevique exerçaient jusque dans les milieux de l'émigration blanche des gardes blancs. Et Staline, qui était un personnage fantastiquement rusé et calculateur, a parfaitement compris le parti qu'il pouvait tirer de cette pièce, Les Turbines, alors que les autres pièces réalistes de Bulgakov continuaient d'être interdites.
Est-ce que, en 1925-1930, quand il vient d'écrire Les Tourbines, est-ce qu'il est reconnu par la jeunesse soviétique? Est-ce qu'il est aimé?
Ce serait schématisé que de dire qu'il est reconnu par toute la jeunesse soviétique. La jeunesse révolutionnaire, la jeunesse intellectuelle se reconnaît en lui, mais il ne faut pas se dissimuler qu'une grande partie du public populaire considère que les thèmes qu'il aborde sont des thèmes qui, dans la mesure où ils remettent en question certaines choses qui semblaient être définitivement classées, eh bien, sont perturbantes. Et par conséquent, pour cette raison même, ce public populaire n'accepte pas toujours et refuse souvent, au contraire, les thèmes de ces pièces.
Je crois qu'il faut le préciser, ça, parce que oui. Staline pensait qu'au contraire, Les Tourbines étaient une pièce pro-révolutionnaire. Enfin, pas pro-révolutionnaire, mais qui servait la révolution à l'encontre de la volonté de l'auteur.
Oui, il y a d'ailleurs une lettre assez pesante, hein, comme tout ce qu'écrivait Staline d'ailleurs, où il explique à un auteur de sixième ordre de l'époque qui demandait pourquoi on continuait à jouer Les Tourbines, toujours charitable pour son confrère. Staline explique pesamment dans une lettre qu'il a daigné envoyer à cet auteur que Les Tourbines ne sont pas une pièce anti-soviétique, alors que La Course est une pièce anti-soviétique parce que, dit-il, la dernière risque d'éveiller la sympathie du spectateur pour les Blancs, alors que la première montre leur échec devant la Révolution. Je ne crois pas, je crois que dans la deuxième, on voit l'échec de l'immigration, c'est très net.
Je crois que là, il y a un problème important après Les Tourbines et La Fuite, c'est que ce profil derrière Bulgakov, déjà l'ombre de Staline qui va le censurer, qui va déterminer un petit peu toute sa vie.
Oui, bien sûr, mais c'est un peu le destin de toute la société soviétique d'ailleurs. À l'époque, il y aura, je vous fais grâce, des développements historiques, mais on peut tout de même schématiser facilement l'histoire de la littérature soviétique à ce moment-là par une période expérimentale exaltante qui marque les années 20 et ensuite ce que l'on peut appeler peut-être une reprise en main, qui est un terme qui ne convient pas forcément, mais disons la mise en place du système stalinien. Et c'est cette période qui va être extrêmement tragique, bien sûr, pour Bulgakov.
Comment appelez-vous ce qui se passe aujourd'hui dans les théâtres soviétiques? Je vous le dis franchement, si ce que vous avez fait du théâtre soviétique ces derniers temps est pour vous de l'antiformalisme, si vous considérez ce qui se passe maintenant sur les meilleures scènes de Moscou comme une réussite, je préfère passer à vos yeux pour un formaliste. Ce qui se produit en ce moment dans nos théâtres est effrayant et pitoyable. Je ne sais si c'est de l'antiformalisme, du réalisme, du naturalisme ou quelque autre isme, mais je sais que c'est nul et mauvais. Ce je ne sais quoi de misérable et de piteux qui ose s'appeler théâtre du réalisme socialiste n'a rien à voir avec l'art. Alors que le théâtre, c'est l'art. Et sans art, il n'y a pas de théâtre. Rendez-vous dans les théâtres de Moscou. Regardez ces spectacles gris et ennuyeux qui se ressemblent tous et sont plus mauvais les uns que les autres. On a peine à distinguer la tendance du Mali de celle de Vartangorf, le théâtre de chambre du théâtre d'art. Là où naguère abondaient les idées créatrices, là où des hommes de l'art, au prix de recherche, d'écart, parfois d'erreur, créaient effectivement et aboutissaient à un résultat tantôt mauvais et tantôt parfait. Là où régnaient les meilleurs théâtres du monde. Aujourd'hui, c'est installé par votre volonté une moyenne arithmétique consternante et consciencieuse dont l'incapacité déprime et tue. Était-ce le but que vous visiez? Si c'était bien cela, alors vous avez commis une erreur effroyable. Vous avez jeté le bébé avec l'eau du bain. Partant en chasse contre le formalisme, vous avez anéanti l'art.
Comment ça l'accommode, le théâtre, la littérature, la poésie, de cette mise en place du système stalinien?
Eh bien, il est évident que elle va y laisser des plumes. Et c'est bien dommage, assurément. Et il y aura un certain nombre d'écrivains, sans doute, ne peut-on raisonner que par hypothèse, parce que précisément à ce moment-là, si des écrivains restent muets, nous ne pourrons jamais constater ce qu'ils auraient pu écrire, bien sûr. Mais il est évident que la mise en ordre de la littérature va s'effectuer de manière énergique, et nous avons une preuve à contrario par l'aspect extrêmement ennuyeux de cette littérature qui va répéter avec plus ou moins de brio des mots d'ordre officiels.
Jusque sous le porche, la tourmente vient me hurler sa prière des agonisants. Je hurle avec elle. Fini. Je suis fini. Un bon à rien coiffé d'une toque crasseuse, le cuisinier de la cantine des employés du Conseil central de l'économie nationale, m'a ébouillanté le flanc gauche, l'ordure. Et ça s'appelle un prolétaire. Oh mon Dieu que j'ai mal. Il m'a brûlé jusqu'à l'os et maintenant... Je hurle. Mais ça m'avance à quoi? Qu'est-ce que je lui avais fait? J'avais tout de même pas ruiné le Conseil de l'économie nationale en remuant quelques ordures. Rapia! Vous avez vu sa gueule, là, cet incorruptible? Il est plus large que haut. Les hommes. À midi, j'ai eu droit à ma ration d'eau bouillante. Maintenant, il fait presque nuit. Il doit être 4 heures de l'après-midi, en jugé par l'odeur d'oignon qui vient de la caserne de pompiers de la Prechistienka. Comme vous le savez, les pompiers ont de la katcha au dîner. C'est d'ailleurs de la katcha de la pire espèce, on dirait des champignons. À propos de champignons, des chiens de mes amis m'ont dit que c'était le plat du jour au restaurant-bar dans la Neglinaïa. Des champignons sauce piquante à 3 roubles, 75 kopecks la portion. Enfin, pour ceux qui aiment ça. Moi, je préfère encore lécher une godasse. Mon flanc brûlé me fait horriblement mal. Et ma vie m'apparaît maintenant toute tracée. Demain, les plaies vont commencer à suppurer. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour les soigner? De l'autre côté de la rue... La porte d'un magasin brillamment éclairé s'est refermée. Et un citoyen est sorti. Pas un camarade, mais bien un citoyen, et même mieux, un monsieur. De près, il n'y a pas de doute, c'est bien un monsieur. Vous croyez que je le reconnais au manteau? Absurde. Aujourd'hui, beaucoup de prolétaires en portent. Évidemment, le col n'est pas pareil, mais de loin, on peut tout de même se tromper. Tandis que si on se fie aux yeux... Qu'on soit loin ou près, possible de se tromper. Les yeux, c'est le plus important. Quelque chose comme un baromètre. On voit celui qui a le cœur racorni, qui pour un rien vous plantera la pointe de son soulier dans les côtes. Et celui qui a peur de tout le monde, cette sorte de larve. C'est un vrai plaisir de leur mordre le mollet. T'as peur? Tiens, prends ça. Puisque t'as peur, tu mérites. Le monsieur a coupé d'un pas décidé à travers un tourbillon de neige pour rejoindre le porche. Celui-là, ça se voit, va pas manger de la viande avariée. Et si jamais on lui en servait, ce serait un beau scandale. Il écrirait aux journaux pour leur dire « Cette nourriture m'a rendu malade. Moi, Philippe Filipovitch. » Il approche. On voit qu'il mange à sa faim. Qu'il vole pas, ne donne pas de coups de pied, mais aussi qu'il a peur de personne. Et s'il n'a pas peur, c'est parce qu'il a jamais faim. C'est un travailleur intellectuel, ce monsieur. Il a une barbe en pointe bien taillée, une moustache grise et fournie comme celle d'un fier chevalier français. Mais il dégage une mauvaise odeur à travers la tempête.
une odeur d'hôpital. Et de cigares.
Mathieu Gallet, il y a quelques années, vous avez lu Cœur de chien. Alors, quel effet ça vous a fait ?
Ça m'a fait l'effet d'une extraordinaire fraîcheur. Mais il est vrai que nous avons connu les œuvres de Bulgakov un peu dans un sens qui n'avait rien de chronologique. C'est-à-dire que nous avions lu avant Maître et Marguerite ainsi que le roman théâtral. Et on a lu Cœur de chien après. Ensuite. Et alors, Cœur de chien, évidemment, c'était un roman bien antérieur, puisque je crois qu'il a été écrit en 1925. Alors, bien sûr, c'est un style très différent. Parce que chez Bulgakov, il y a même une espèce de volontaire, de confusion un peu. Parce que ce sont des romans foisonnants, les grands romans de Bulgakov. Tandis que celui-là, au contraire, il est très pur, il est très simple. C'est une parabole, c'est une fable, c'est pas de, d'un brave docteur qui un jour greffe un cœur de chien. Alors évidemment, tout le monde change. C'est vraiment une histoire très très... pur, enfin, je veux dire, c'est pas du tout un livre tellement à la russe.
L'énigmatique monsieur s'est penché vers le chien dans un mouvement qui a fait étinceler la monture d'or de ses lunettes. Sans ôter ses grands brins, il déplie le papier qui est aussitôt emporté par la tempête, prend un bout de saucisson, du Cracovie Extra, et le donne au chien. Oh, homme désintéressé. Psst, 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 siffle le monsieur, et il ajoute sur un ton extraordinairement sévère « Attrape, boule. Attrape. » Boule, encore ? Cette fois, ça y est, je suis baptisé. Mais vous pouvez m'appeler comme vous voudrez, pour votre geste admirable. En un clin d'œil, le chien a déchiré la peau. Avec un petit cri, il happe le Cracovie et l'avale en deux temps trois mouvements, en même temps que la neige qui le couvre. Dans sa précipitation, c'est tout juste, il ne mange pas aussi la ficelle. Il s'étrangle presque. Les larmes lui viennent aux yeux. Je vous lèche 100 fois les mains. Je ouvre le bas de votre pantalon. Mon bienfaiteur. Ça suffit maintenant. Le monsieur avait parlé d'une voix saccadée sur un ton de commandement. Il se penche sur Boule, le regarde droit dans les yeux, l'air scrutateur. Et passe inopinément une main gantée et caressante sur le bas-ventre du chien. « Ah ah !» dit-il d'un air entendu. « Et pas de collier. Très bien, très bien. Tu es exactement ce que je cherchais. Suis-moi. Ici. Psst, psst !» ajoute-t-il en claquant les doigts. « Vous suivre ? Mais je vous suivrai au bout du monde. » Vous pourriez me frapper avec vos bottines de feutre. Je dirai pas un mot.
Vous avez un jour, Jean Frustier, écrit aussi une critique de Cœur de chien.
Alors, Cœur de chien, c'est un peu comme tous les romans de Bulgakov que nous avons connu en France. Qu'il s'agisse du roman théâtral, qu'il s'agisse du Maître et Marguerite, ou qu'il s'agisse du Cœur de chien, ce sont vraiment des critiques acerbes du régime, et absolument féroces. Étant donné que Cœur de chien, c'est l'histoire d'un chien qui est gentil, comme sont tous les chiens, excusez-moi, j'en ai un, et à qui on greffe pour une expérience biologique, des testicules, je ne sais encore quel organe, n'est-ce pas ? Un savant s'est enthousiasmé pour ce problème, d'un citoyen soviétique ivrogne, qui vient de mourir probablement de son ivrognerie.
Il y met son cerveau aussi.
Et son cerveau.
Il dort ? Demanda Philippe Filipovitch. Il dort bien. Philippe Filipovitch serra les dents. Ses yeux se mirent à briller d'un éclat perçant, tandis que le bistouri traçait sur le ventre de Boule une ligne longue et nette. La peau céda aussitôt, et le sang gicla de tous côtés. Bormental se précipita, s'affaira sur la plaie avec des compresses de gaz, puis en resserra les bords à l'aide de petites pinces qui ressemblaient à des pinces à sucre. Le sang cessa de couler. Des gouttes de sueur perlèrent sur le front de Bormental. Philippe Filipovitch entailla à nouveau la peau, et les deux hommes se mirent à fouiller le corps de boule avec des crochets, des ciseaux, des sortes de crampons. Ils extirpèrent des tissus roses et jaunes qui dégouttaient d'une rosée sanglante. Philippe Filipovitch, qui tournait et retournait son bistouri dans le corps du chien, cria soudain « Ciseaux !» Un instrument brillant apparut comme par magie dans les mains du mordu. Philippe Filipovitch fouilla dans les profondeurs et retira en quelques mouvements agiles les glandes génitales du chien, ainsi que quelques morceaux de chair. En nage, Bormental se précipita vers un bocal de verre d'où il sortit d'autres glandes génitales humides et flasques. Dans les mains du professeur et de son assistant virevoltèrent de petits filaments humides. Les aiguilles courbes cliquetèrent contre les pinces et les nouvelles glandes prirent la place des anciennes. Le grand prêtre se redressa, couvrit la plaie d'une compresse de gaz et ordonna « Recousez immédiatement la peau, docteur !» Il tourna la tête pour consulter la pendule blanche accrochée au mur. « Déjà 14 minutes !» marmotta Bormental entre ses dents serrées, piquant une aiguille courbe dans la peau flasque. Les deux hommes commencèrent alors à s'agiter comme s'ils avaient la police à leur trousse. « Bistouri !» cria Philippe Filipovitch. Le bistouri jaillit lui-même entre ses mains. Le visage du professeur devint terrible à voir. Un rictus dévoilait ses dents de porcelaine et d'or. D'un geste rapide, il traça sur le front de boule une couronne rouge. La peau rasée fut enlevée comme un scalp, l'os mis à nu. Philippe Filipovitch cria « Trépan !» Bormental lui tendit une sorte de vilebrequin scintillant. Se mordant la lèvre, le professeur entreprit de forer tout autour du crâne de boule une série de petits trous distants les uns des autres d'un centimètre. Il ne passait pas plus de 5 secondes sur chacun. Puis, il prit une scie d'allure étrange, introduisit l'extrémité de la lame dans le premier trou et commença à scier, comme s'il s'était agi d'ajourer une boîte à ouvrage de dame. L'os crissait et vibrait légèrement. 3 minutes plus tard, la calotte crânienne du chien était enlevée. La coupole du cerveau apparut alors à nu, masse grise parsemée de veines bleuâtres et de taches rougeâtres. Philippe Filipovitch approcha ses ciseaux de l'enveloppe dure et commença à l'entailler. À un moment, jaillit une fontaine de sang qui manqua de peu l'œil du professeur et aspergea son bonnet. Bormental se rua comme un tigre, une pince à la main, serra, pinça et parvint à arrêter le jet. Il ruisselait de sueur et avait le visage marbré de rouge. Ses yeux passaient incessamment des mains du professeur au plat chargé d'instruments sur la petite table. Quant à Philippe Filipovitch, son expression était proprement terrifiante. Un sifflement s'échappait de son nez et ses lèvres retroussées laissaient apparaître les dents jusqu'aux gencives. Il arracha l'enveloppe et s'enfonça plus avant, mettant à nu les hémisphères cérébraux. À cet instant, Bormental blêmit, posa la main sur le poitrail de boule et dit d'une voix rauque « Le pouls faiblit rapidement. » Philippe Filipovitch lui jeta un regard féroce, émit un grognement inarticulé et se remit de plus belle à manier les ciseaux. Bormental cassa une petite ampoule de verre, en aspira le contenu dans une seringue et piqua perfidement boule dans la région du cœur. « J'arrive à la selle turcique !» s'écria Philippe Filipovitch. Les gants glissants et ensanglantés sortirent de la boîte crânienne la cervelle grise et jaune du chien. Il jeta un bref regard sur la gueule de boule et Bormental s'empressa de briser une deuxième ampoule remplie d'un liquide jaune qu'il aspira dans une longue seringue. « Au cœur ?» demanda-t-il timidement.
« Quelle question ! » rugit le professeur furieux. « De toute façon, il est mort 10 fois, déjà, piqué ! C'est incroyable !»
Son expression était celle d'un brigand fanatique. Le docteur planta délicatement l'aiguille dans le cœur du chien. Il vit encore, mais à peine.
« C'est pas le moment de discuter s'il vit ou non !»
siffla Philippe Filipovitch terrible.
« J'en suis à la selle ! S'il meurt, il mourra de toute façon. Ah, Dieu ! Vers les rives sacrées !
Donnez-moi l'hypophyse. »
Les tuyaux faisaient entendre leur harmonie grise. Derrière les stores tirés, s'étendait la nuit profonde de la Prechistienka, trouée par son étoile solitaire. L'être supérieur, le grand bienfaiteur des chiens, était assis dans son fauteuil. Le chien boulet était tendu sur le tapis, tout près du divan de cuir. Le matin, les brumes de mars lui causaient des maux de tête qui irradiaient tout au long de la cicatrice qui entourait son crâne. Mais la tiédeur du soir les calmait. Maintenant, la douleur était passée et les pensées coulaient douces et tranquilles dans l'esprit du chien.
Quelle chance j'ai eue! Quelle chance! Une chance tout simplement incroyable. Je suis maintenant installé dans cet appartement, à demeure. C'est certain, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon origine. Il doit y avoir du terre-neuf là-dessous. Ma grand-mère, que Dieu ait son âme, était une rude drôlesse. C'est vrai, ils m'ont tailladé la tête, qui sait pourquoi, mais ça passera. Il n'y a pas à s'inquiéter pour ça.
Des profondeurs de l'appartement parvenait le tintement assourdi des fioles entrechoquées. Le mordu rangeait les armoires de la salle de soins. Le vieil enchanteur fredonnait dans son fauteuil. Les rives sacrées. Le chien voyait d'épouvantables choses. Un homme plongeait gravement dans un récipient, ses mains revêtues de gants gluants. En retirait une cervelle. L'homme, obstiné, acharné, essayait toujours d'atteindre quelque chose. Couper, examiner, et chanter les yeux mi-clos.
Et tout d'un coup, ce chien qui était un individu merveilleux devient un citoyen soviétique à part entière, c'est-à-dire obnubilé par le régime, ridicule, borné, mais enfin, vraiment, quoi, c'est la satire gogol, mais dans une époque où il est inconcevable, en 1925, qu'un auteur puisse publier une chose pareille. Et c'est ça qui est très, très, très remarquable, n'est-ce pas, chez Bulgakov, c'est que, semble-t-il, tout ce qu'il a voulu faire d'entrée était critique, et il a réclamé à Staline, dans sa lettre, le droit d'être critique vis-à-vis du régime, mais ses attaques sont farouches. Je me demande même si nous pourrions aujourd'hui attaquer notre propre régime dans des termes aussi violents que cela. Parce qu'enfin, partir d'un chien fidèle et admirable pour en faire un citoyen soviétique bureaucratique, c'est inouï. C'est inouï d'écrire ça en 1925 quand le régime n'a encore aucune solidité. C'est le grand courage de Bulgakov qui fait qu'à partir de 1930, brimé, voici que notre auteur écrit à Staline. Il lui écrit une lettre qui depuis a été publiée. Je crois même que l'Observateur a publié l'intégralité de cette lettre, où il dit « Mon métier, c'est d'écrire. Maintenant, vous êtes libre de me fusiller. »
Mon portrait littéraire est achevé et c'est un portrait politique. Je ne saurais dire le degré de culpabilité qu'on y trouve, mais je demande simplement qu'on ne cherche rien hors de ses limites. Il a été tracé en conscience. Si j'analyse mes critiques, je relève dans la presse soviétique, au cours des 10 ans de ma carrière littéraire, 301 comptes rendus me concernant. 3 d'entre eux me sont favorables. Les 298 autres d'une hostilité injurieuse. Ce sont ces 298 qui compose le fidèle miroir de ma vie d'écrivain. L'île pourpre n'est pas un pamphlet anti-révolutionnaire pour plusieurs raisons, dont faute de place. Je n'indiquerai qu'une seule. Écrire un pamphlet contre la révolution est impossible en raison de sa grandeur. J'apporte la preuve avec documents à l'appui que pendant toute la durée de mon activité littéraire, l'ensemble de la presse soviétique, aussi bien que les organismes chargés de contrôler le répertoire, se sont unanimement acharnés à démontrer que les œuvres de Mikhaïl Bulgakov n'avaient pas le droit de citer en Union soviétique. Et je déclare à mon tour que la presse soviétique avait parfaitement raison dans ses affirmations. Les journaux allemands assurent que l'île pourpre est le premier appel à la liberté de la presse lancé en Union soviétique. La Jeune Garde, numéro 1, 1929. Et c'est vrai. Je l'avoue, combattre la censure, quelle qu'elle soit et sous n'importe quel régime, est de mon devoir d'écrivain, aussi bien que réclamer la liberté de la presse. Je suis fermement résolu à défendre cette liberté-là et j'imagine qu'un écrivain, s'avisant de démontrer qu'elle ne lui est pas indispensable, se mettrait dans la situation d'un poisson, proclamant publiquement qu'il n'a pas besoin d'eau. Telle est l'une des caractéristiques de mes œuvres. Il n'en faut pas plus pour leur ôter le droit d'exister en Union soviétique. À cette exigence fondamentale sont liés tous les traits que l'on relève dans mes récits satiriques. Couleurs sombres et mystiques, je serai un écrivain mystique, sous lesquels sont dépeintes les absurdes difformités de notre société. Venin qui imprègne ma langue, scepticisme profond à l'égard des chances de la révolution dans mon pays arriéré, à laquelle j'oppose l'évolution globale. Enfin et surtout, choix des traits les plus effrayants du peuple russe. Ceux précisément qui, bien avant la révolution, torturaient déjà mon maître, Saltykov Stechedrine. Il va sans dire que la presse soviétique n'a pas songé à relever de tels détails, tout occupée qu'elle était à établir de manière si peu probante que la satire de Bulgakov n'était qu'un tissu de calomnie. Une fois seulement, au début de ma notoriété, on a relevé, avec une nuance d'étonnement condescendant, Mikhaïl Bulgakov veut devenir le satiriste de notre époque. Hélas, c'est à tort qu'on a usé du présent. Il fallait un plus que parfait. Mikhaïl Bulgakov était devenu satiriste juste au moment où aucune satire véritable qui pénétra dans les secteurs interdits n'était plus tolérable en Union soviétique. Ce n'est pas moi qui ai eu l'honneur d'exprimer cette pensée séditieuse dans la presse. On la trouve parfaitement rendue dans un article de Blum, dont le sens se résume brillamment dans une formule définitive. Tout satiriste en Union soviétique attente à l'ordre soviétique. Suis-je seulement concevable en Union soviétique? Vient enfin le dernier trait qui caractérise mes pièces sanctionnées, les journées des turbines et la fuite, et mon roman, La Garde Blanche, la représentation obstinée de l'intelligentsia comme le meilleur élément de notre société, mais la peinture d'une famille de la noblesse cultivée, jetée par une irrévocable fatalité historique dans le camp des Blancs et conforme à la tradition de guerre et paix. Une telle évocation est parfaitement normale pour un écrivain lié de naissance à l'intelligentsia. Seulement, des présentations de ce genre en Union soviétique valent à leur auteur d'être mis au rang de ses héros et, en dépit de tous ses efforts pour s'élever à une vision objective au-dessus des rouges et des blancs, d'être déclaré lui-même garde-blanc et traité en ennemi. Chacun sait qu'en Union soviétique, une semblable attestation signe la perte de celui qui en bénéficie. Aujourd'hui, j'ai cessé d'exister. Ma disparition a été saluée avec un profond plaisir par la communauté soviétique et a été qualifiée de « résultat positif ». Piquel, constatant ma disparition, a eu une pensée libérale
Nous nous refusons à dire que le nom de Bulgakov est rayé de la liste des auteurs dramatiques soviétiques. Il a réconforté l'écrivain immolé en assurant qu'il ne s'agissait que de ses productions antérieures. Mais l'avis, en la personne de la Commission centrale pour le répertoire, a prouvé que le libéralisme de Piquel ne reposait sur rien. On périt non seulement toutes mes œuvres passées, mais présentes et à venir. Et j'ai personnellement, de mes propres mains, jeté au feu le manuscrit d'un roman sur le diable, celui d'une comédie et le début d'un deuxième roman, théâtre. Toutes mes entreprises littéraires sont sans espoir. Je sollicite que le gouvernement de l'URSS me donne l'ordre de quitter immédiatement le territoire de l'Union. Je fais appel à l'humanité du pouvoir soviétique et sollicite pour un écrivain qui ne peut pas être utile dans son pays qu'on ait la générosité de le laisser librement partir. Si ce que je viens d'écrire n'est pas suffisamment convaincant, si l'on me condamne au silence à vie en Union soviétique, je sollicite du gouvernement qu'il me donne un travail conforme à ma spécialité et qu'il m'affecte dans un théâtre en qualité de metteur en scène. Je propose au gouvernement soviétique, sans la moindre arrière-pensée, les services parfaitement loyaux d'un metteur en scène et d'un acteur qui s'engage à monter consciencieusement n'importe quelle pièce, à commencer par le théâtre de Shakespeare et jusqu'au répertoire contemporain. Je sollicite d'être nommé metteur en scène au Théâtre d'Art, la meilleure école théâtrale du RSS, dirigée par les maîtres Stanislavski et Danchetko. À défaut, je sollicite un emploi de figurant. S'il est impossible de l'obtenir, je sollicite celui de machiniste. Si cela est également impossible, je demande au gouvernement d'agir à mon égard, comme il le juge nécessaire, mais d'agir d'une manière ou d'une autre. Auteur de 5 pièces, connu en Union soviétique et à l'étranger, je me trouve aujourd'hui acculé à la misère, jeté à la rue et promis à une fin rapide.
Cette lettre est envoyée à Staline le 28 mars 1930. Il y a là une coïncidence, je ne sais pas si elle est simplement fortuite. Le 14 avril, Maïakovski se suicide. Et le 18 avril, Staline appelle au téléphone Bulgakov. Nous avons la conversation de Bulgakov et de Staline notée par Hélène Bulgakov, par la femme de l'écrivain. Et elle caractérise bien cette situation étonnante qui se crée entre le maître de l'Union soviétique et les écrivains. Staline demande à Bulgakov si vraiment sa situation est aussi pénible qu'il l'affirme dans sa lettre, ce qu'évidemment Bulgakov lui confirme, et en même temps, Staline lui propose non pas de quitter l'Union soviétique, où il lui en laisse la possibilité, que Bulgakov refuse, disant que de toute façon sa place reste en tant qu'écrivain dans son pays. C'est une situation d'ailleurs qui peut offrir des parallèles même de nos jours. Et Staline approuve son choix et lui dit qu'il lui sera facile désormais d'avoir une place, comme il le souhaitait, au Théâtre d'Art en tant qu'adjoint au metteur en scène. Le lendemain, bien sûr, ce qui avait été jusqu'à ce moment-là refusé à Bulgakov, c'est-à-dire un emploi au Théâtre d'Art, lui est immédiatement accordé, les ordres avaient été donnés.
C'était Mikhaïl Bulgakov, première émission d'une série de 2 proposée par François Ruggieri, avec la participation de Paul Kalinine, Alexandre Petrovitch, Georges Soria, Jean Frustier, Mathieu Gallet et Georges Lavelli. Texte lu par Jean Rochefort et Julien Guillemard. Réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 3 novembre 1973. La deuxième émission, diffusée demain à la même heure dans les nuits de France Culture, s'intéressera au roman de Molière, à L'île pourpre et au Maître et Marguerite. D'ici là, vous pouvez podcaster cette émission ou la réécouter en ligne sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture.